C'est le petit guide du podcast, 7e épisode. Bonjour François.
Salut Boris.
François Larivière avec moi et Boris Proulx au micro. Qui parlons, comme à chaque semaine, de balado, de podcast et autres radio numérique. Je suis très content d'être là pour le 7e épisode.
Hey, puis t'en as parlé à Fred Savard, tu nous as plugué, toi.
Ben oui, j'ai parlé de toi.
Ben oui, je suis bien content.
Jeudi passé, j'étais invité à faire une chronique au balado de Fred Savard.
Oui,
il faudrait
attention.
Pas dire oui, exactement. Lui, il insiste sur la féminité du terme balado qu'il... Il se revendique là, de ce mot féminin. Donc, nous, on n'a pas encore tranché, d'ailleurs.
Hein? On ne sait plus.
Podcast,
on dit podcast balado. Pour régler le problème.
Ouais, exact. Donc, j'en ai profité, hein, tant qu'à ça. Fred, il m'a dit, « Ah, ça te tente-tu de parler de ta balado que tu as partie, de suggestions? » Puis j'ai dit, « Ben oui. » Puis après ça, Fred l'a partagé dans sa page Facebook de la balado de Fred Savard. Allez écouter ça, le petit guide du podcast. Ça nous a amené pas mal d'auditeurs, donc on le remercie. Oui. Et d'ailleurs, je remercie aussi Xavier Cronstrom-Richard, qui est l'administrateur de la page qui s'appelle Le Club d'écoute radio, qui est une page Facebook vraiment intéressante d'ailleurs, avec des tripeux de balado, des tripeux de podcast qui publient périodiquement là, des nouvelles du monde du podcast québécois, canadien, américain. Donc, un peu ce qu'on fait, mais en mode page Facebook. Donc, merci Xavier. C'est un ancien de l'accélérateur d'idées de Radio-Canada. On s'est connus comme
on
ça.
L'a déjà, je sais pas si tu te rappelles. Oui, c'est vrai.
Ouais, donc, merci encore. Puis, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook. C'est vraiment le fun. J'ai reçu beaucoup de commentaires très positifs. Puis, de gens qui, comme nous, tripent sa balado. Donc, c'est le fun. Merci à François, merci à Bouchra et à tous les autres, peut-être, qui vont m'écrire après cet épisode. Hein, qui sait?
On sait pas.
Faut mettre la barre là.
On commence ça, Boris?
C'est quoi le thème de la journée? On s'est demandé ça avant de partir l'enregistreur.
J'irai avec le thème de l'enquête. Enquête policière.
Série d'enquête
policière.
Moi, c'est pas très policier, par contre. C'est plus société. Mais vas-y, commence. Toi, tu nous parles vraiment du true crime enquête policière.
On y va. 10 years ago today marked the last time anybody reported seeing or talking to Officially, police are calling this a missing persons case. GBI officials say investigators found an $80,000 reward is being offered. Where is Tara Grinstead? From Tenderfoot TV in Atlanta, this is Up and Vanished, the investigation of Tara Grinstead. I'm your host, Payne Lindsay. Ça commence bien avec une belle voix radiophonique comme ça, hein?
A cappella.
Ben oui.
Up and Vanished.
Up and Vanished. Ça, c'est une recommandation d'un de mes amis qui m'a complètement vendu ce podcast-là. Ça, c'est une production indépendante d'un gars qui s'appelle Payne Lindsay, qu'on vient d'entendre. Documentariste américain qui a écouté la balado Serial de This American Life, puis qui a décidé que lui aussi, bon, il voulait se pencher sur un cas juridique.
Donc, il a travaillé sur Serial.
Non, il l'a écouté. Grand fan.
C'est comme nous, un fan de podcast.
Exactement. Puis lui, il s'est dit, moi tout, je veux faire ça.
Il est capable, lui, de faire une enquête du style Serial.
C'est ça, bon, mais il y a quand même certaines différences entre les deux podcasts. D'abord, Serial, ça parle d'une histoire déjà réglée, entre parenthèses, parce qu'il y a un gars qui a été arrêté pour le meurtre dont on parle dans le podcast. Du côté de Up and Vanish, c'est un véritable cold case. La police, au moment de la production du podcast, n'a aucune idée de l'identité du meurtrier. Donc, le dossier est encore ouvert. La deuxième grande différence, et je vais y revenir plus tard, c'est la qualité du journalisme d'enquête entre les deux productions, qui est extrêmement différente. Serial de This American Life, c'est fait par des journalistes professionnels. Up and Vanish, c'est pas le cas.
C'est comme amateur, autrement dit. Une enquête, mais
amateur.
Un dude.
C'est ça.
Qui enquête.
De faire ça. Je vous mets en contexte. Notre Payne Lindsay, lui, il écoute Serial, capote ben raide, décide de regarder sur Internet s'il n'y a pas d'autres cold cases proches de chez lui qui pourraient l'intéresser.
Puis okay. Il habite où?
Il habite en Géorgie.
Okay.
Fait que là, il tombe sur le cas de Tara Grinstead, une professeure d'histoire et une championne de concours de beauté qui disparaît subitement d'Ocilla, une ville en Géorgie, le 22 octobre 2005. Écoute ça. Un dimanche comme les autres, elle s'en va à un concours de beauté. Okay. Ensuite, elle se rend à un barbecue Puis finalement, elle serait rentrée chez elle en fin de soirée. Jusque-là, ça va. Le lendemain, elle ne se présente pas en classe. Les élèves avisent les autorités. On se rend chez elle. Il n'y a personne. Elle a disparu. Ce qu'on sait, c'est que quelque chose s'est passé la veille aux alentours de 11h et minuit. Pourquoi on sait ça? Parce que la mère de Tara, qui n'a plus de nouvelles de sa fille cette soirée-là, ben, va demander à un policier qu'elle connaît d'aller voir chez elle si tout va bien. Bon, lui va se rendre là-bas vers minuit. Déjà, elle est introuvable. La voiture est parkée dans l'entrée. Il n'y a personne qui répond à la porte.
Mm-hmm.
Fait que le policier va finir par s'en aller bredouille, mais on pense que quelque chose s'est passé entre le moment où Tara rentre chez elle et, après le barbecue et le moment où le policier lui cogne à la porte vers minuit.
Okay.
L'affaire qui est weird dans l'histoire, Boris, puis c'est sûrement ce qui a vraiment intéressé Payne Lindsay dans tout ça, c'est dans l'état dans lequel on a laissé la maison de Tara. Okay? Les policiers ont noté ceci. La porte avant de sa maison est verrouillée.
Okay. Uh-huh.
Son cellulaire,
comme
lui,
si elle était partie, puis elle a barré derrière elle.
Ou elle est jamais rentrée.
Ouais.
Okay. Son cellulaire, lui, est retrouvé dans la maison, mais pas de trace de sa sacoche ni des clés. Tout est relativement beau à l'intérieur, sauf une lampe de chevet qui a été retrouvée par terre. Son char, lui, est parké, mais il est déverrouillé.
Okay.
Son char est déverrouillé. Puis on trouve, finalement, un gant de latex, drette en avant de chez elle,
okay, ça, c'est louche.
Okay. Ça peut-être que ça appartient à Tara, mais... Ça...
Jusqu'au cas de la texte, je me suis dit, peut-être partir en autobus sans son sel.
On ne sait pas, mais ça appartient peut-être à quelqu'un qui voudrait peut-être s'assurer de ne pas laisser des traces d'empreintes.
Ben ouais.
Mystère. Il y a vraiment quelque chose qui cloche.
Mm-hmm,
jusque-là,
mm-hmm,
est-ce que tu es intéressé?
Ben, oui. Okay. Je veux savoir. Puis surtout que, si je me souviens bien ce que tu m'as dit avant l'enregistrement, c'est qu'il y a des péripéties, il y a des genres de découvertes.
Oui. L'enquête, elle se développe durant le podcast, c'est ce qui est vraiment intéressant. T'sais. Puis les premiers suspects, les suspects potentiels, c'est l'ex-chum, le gars qui l'a déjà stalké, un gars qui chauffe un pick-up noir. Il y a des membres du service de police qui sont aussi sur le spotlight de ces nombreux soupçons du journaliste. Du documentariste, excuse. Puis pour de vrai, les premiers épisodes sont vraiment accrochants. J'ai tout de suite été complètement séduit par l'histoire, surtout que mon ami qui m'a vendu le podcast me dit qu'on finit par arrêter quelqu'un. On finit par porter des accusations.
OK, donc grâce au podcast,
le podcast a à voir avec
le dénouement. L'enquête au point d'arrêter quelqu'un.
Donc,
intéressant.
C'est intéressant, mais emporte-toi pas trop vite. Parce que je te vois déjà en train de t'abonner, là.
Ben oui, non, exactement. Moi, Serial, j'ai beaucoup aimé ça.
Ouais.
Et qui n'a, ben, tu l'as dit, c'est un peu réglé, on n'a pas arrêté de personne. Imagine un Serial qui finit par aboutir.
Let's go,
ouais.
Là.
Ben oui.
Add to cart. Sauf que ceux qui écoutent le petit guide du podcast, ils savent que depuis tout le début, j'étais un gars assez rose bonbon. Bon, j'haïs ça. Je suis jamais en train de critiquer. J'aime mieux suggérer des bons podcasts que justement
c'est
les critiquer.
C'est vrai qu'on n'a pas descendu un podcast.
Mais non.
Il faudrait faire ça un moment donné.
Non,
mais
parce que je me dis, je suis qui, moi, anyways, pour critiquer le travail des autres, tu sais. Mais c'est ça pendant ce que je vais faire aujourd'hui. Ça commence tout de suite à l'épisode 7,
ça,
Boris.
Parfait.
Tout d'abord, je trouve qu'on est vite en affaire pour soupçonner les gens. Payne, Lindsay, comme lui, en fait, il se défend en disant que son podcast, bon, il veut faire avancer les choses. C'est le même qui se défend.
Et là, tout le monde devient suspect dans son affaire.
Ben, un peu, tu sais. Puis on l'entend nous dire, ben, s'il y a du monde d'innocent, ben, dans ceux que je présente, ben, qui viennent se prononcer. On peut en écouter un extrait. Écoute ça.
The bottom line is, not everyone in this case is guilty. It's possible there was more than one party involved, but there's only one culprit here. And the tough thing is, these are all real people, with real lives and careers and reputations at stake. My intent has always been to respect that. There's been several TV specials about this case over the years, and they all seem to just skim the surface, reciting the same old narrative over and over. I knew from day one that if I wanted this podcast and my documentary to actually help solve this, that I couldn't leave anything out. So with that being said, I'm going to present all the facts. And if doing that makes someone look guilty, then by all means, please come clear your name. I don't have a dog in this hunt. This case is unsolved because of silence.
Tu vois, il part avec des bonnes intentions, là. Puis c'est vrai qu'il va pas jusqu'à accuser des gens non plus. Si vous l'écoutez, vous allez vous rendre compte, évidemment, qu'il accuse personne.
Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que tout ce qui a été produit comme article journalistique, on n'est pas allé au fond des choses, franchement. Et lui, il dit...
On va aller plus loin.
On va aller plus loin en donnant la promesse qu'il va nommer des noms, il va nommer des noms de vraies personnes là, qui pourraient être compromis dans cette affaire-là. Puis si c'est pas vous, ben, venez me parler.
C'est ça. De vous prononcer.
Ouais.
Fait que Je trouve qu'on flirte pas mal avec le sensationnalisme puis l'éthique, je trouve. C'est extrêmement risqué d'impliquer des gens dans une histoire comme ça, puis leur donner des rôles aussi. Mm-hmm. Là. Fait que,
est-ce qu'ils viennent? Est-ce que ces gens-là sont effectivement nommés et participent au podcast?
Tu sais quoi, je me suis même pas rendu jusqu'à la deuxième saison.
OK.
Puis, je suis allé voir des critiques.
Il y a deux saisons, cette affaire-là.
Il y a deux saisons.
Donc, l'arrestation, c'est...
ça finit par faire des case updates. Puis là, comme c'est plus vraiment des épisodes, mais c'est juste des updates sur le cas. Tu sais, il avait fini la série, mais il a continué de poursuivre avec des épisodes.
Ce qui est la deuxième saison.
Ben non, la deuxième saison, elle a des épisodes en tant que tel, mais ça finit tu sais, par s'étirer après, tu sais, par des case updates.
On vire pas, fou là. Sur le cas.
Ah, mais écoute, selon les critiques que j'étais allé voir sur Internet, là, puis la saison 2 est vraiment pas aussi tête que la première. On finit par manquer de plus en plus de substance. On tourne en rond, on revient toujours sur les mêmes constats, on spécule à tout bout de champ, puis c'est un peu la critique que je fais de la première saison aussi. Bref, on aurait pu ramasser beaucoup plus la saison 2. Fait que si je peux vous suggérer quelque chose, écoutez les premiers épisodes, puis ensuite, ben voyez par vous-même si ça vaut la peine pour vous de continuer ou pas.
L'arrestation arrive un moment donné dans saison 1?
Non, pas dans saison 1.
Ah, OK.
Non, je finis par aller voir sur Internet. Fait que, au moins, spoiler alert, allez pas sur Internet, tapez pas Tara Grinstead sur Internet, vous allez probablement voir le suspect qu'ils ont arrêté.
Ou, OK, ben dis-nous-le pas, là.
Non, je vous le dirai pas.
Mais t'as fait un spoiler alert, normalement, c'est quand tu le dis.
Oui, exactement. Non, mais je dirai pas le nom, tu sais.
OK.
Mais c'est ça, fait que... Ce qui est alléchant là-dedans, c'est que, bon, il y a quelqu'un qui se fait arrêter. Vous l'avez entendu un peu, la musique, l'habillage sonore est quand même bien faite. Le storytelling est super bon, mais ça va downhill rapidement. Puis, comme je vous dis, le journalisme là, est un peu... en tout cas, je le critique.
Il y a un danger à ça, je pense, faire un podcast d'enquête puis pas avoir, disons, respecté les codes nécessairement de l'enquête journalistique. On dirait que le gars est au courant de ça en disant que c'est des vraies personnes avec des vraies réputations, des vraies carrières.
Ouais.
Tu sais, tu veux pas te mettre à... Ben, disons, la ligne est mince entre accuser quelqu'un d'une manière... aléatoire et injustifié et vouloir rendre ta série thrillante, vouloir maintenir
c'est
en vie de suspense.
Ben oui. Puis toi, tu vas falloir que tu te plonges là-dedans parce que tu vas faire partie de la production de Synthèse 2, qui est sur quel cas exactement?
Synthèse, pour ceux qui ont... je pense on a déjà parlé
d'autres parlons du podcast. Explique donc vite fait, c'est quoi?
C'est une production de Transistor Media Synthèse sur des cold cases, justement. Donc, ça m'a fait beaucoup penser à cette balado que t'as pas aimé, donc j'espère que tu vas plus aimer la saison 2
de Synthèse. J'ai beaucoup aimé Synthèse 1 déjà.
Qui était un cas de l'Outaouais, une fille qui s'est fait assassiner près du cégep de l'Outaouais et qui, je pense, est un cas très célèbre parmi les gens de notre âge, puisque ça s'est passé à peu près à l'époque où nous-mêmes étions au cégep université. Et, ça a eu un très grand succès, ça a été vendu à Cube Radio et ça a été un des bons vendeurs à Cube Radio. Et ben oui, je peux l'annoncer, je pense. On peut faire l'exclusivité ici même au petit guide de la balado, mais...
on est rendu là, Boris.
Transistor m'a embauché, en fait, pour travailler comme journaliste à la saison 2, qui est un autre cas cold case, donc un autre cas de meurtre non résolu. Cette fois-ci, je sais pas ce que je peux vous dire là-dessus, mais je vais juste vous dire que c'est un cas... qui a été inspiré parce que la coroner, dans la saison 1 qu'on entend, qui était la coroner du cas de Valérie Leblanc, avant d'être coroner, sa meilleure amie a été assassinée, une fille de Sherbrooke, qui a été assassinée dans le New Hampshire, aux États-Unis, tout près du Mont Washington. Et ça l'a énormément marqué, évidemment. Et nous, on se replonge dans cette histoire-là de cette fille-là qui... Ouais, qui est parti faire un hike toute seule parce que son projet de voyage avec des copines est tombé à l'eau et puis elle s'est ramassée d'une manière très, très, très curieuse à être assassinée dans une place touristique, dans un mini-sentier tout près du début, du point de départ de la marche, finalement, en montagne. Donc,
c'est en quelle année, ça?
C'est en 2001. Ça fait 18 ans de ça bientôt. Et là, on est en plein dans les démarches d'enquête, justement. On commence tout juste à travailler là-dessus. Et c'est très excitant,
Mais c'est-tu quelque chose qui te fait peur, ça, de justement faire attention à l'intégrité des gens, pas trop, justement...
Mais là, maintenant que ça devient officiel, là, je te dirais que oui. Ouais. Ça commence à me chicoter. Et là, plus je me plonge dans le cas, plus... Je vois des pistes intéressantes, curieuses, très troublantes. Et puis, je me dis, OK, là, il va falloir explorer ça. La liste est longue. Il va falloir aussi faire preuve de sensibilité, évidemment. Tu sais, c'est les membres de sa famille, etc. Tu sais, on veut leur parler. On a l'intention de connaître toutes les démarches, si on veut, tout ce qui se passe après un tel crime, les impacts chez les proches, le fait d'être pris dans une enquête policière, dans un cas médiatiquement connu également au Québec. Donc,
On a très hâte d'entendre ça, en tout cas. Pas trop de hyper ça, mais on a très, très hâte d'entendre ça.
C'est un travail de plusieurs mois, de longue haleine. On prévoit une sortie là, pour le, disons, l'automne.
Bon, est-ce que tu veux y aller avec ta suggestion, Boris?
Écoute, sur cette petite transition,
ben oui,
si tu veux bien, j'aimerais te parler du balado que j'ai écouté qui s'appelle Trafic.
OK. Ça, c'est la suggestion de Mathieu Paiement qu'on a reçue. C'est le producteur au contenu de la balado La Bombe, qui a été une production de Télé-Québec, qu'on avait reçue, nous autres, en entrevue, je pense, l'épisode dernier. Hein, on avait jasé
la semaine passée, on parlait à Mathieu Paiement au téléphone. Et puis, un chic type. Hein. D'ailleurs, j'ai beaucoup entendu des échos positifs de cette interview. En fin de question, c'était très bon. Hein, tu lui as demandé « As-tu une suggestion comme ça de balado? » Et il nous a dit « Trafic de Picbois, qui est la compagnie de production du balado. » Et puis, au bureau, tu m'as dit quelque chose comme « Voyons, c'est difficile à trouver, Trafic. »
C'est vrai.
Avec un nom de même, il y a plein d'affaires qui s'appellent Trafic. Mais je vous rassure, vous mettez dans Google « Trafic podcast » et on tombe tout de suite sur cette production de Picbois produite par Télé-Québec, qui est une série d'enquêtes également sur la prostitution juvénile, donc la traite de jeunes filles aux fins d'exploitation sexuelle. C'est la réalisatrice Catherine Proulx, sans lien de parenté avec moi, qui essaie tout le long de trouver qui est le client. C'est un petit peu le suspense, comme dans La Bombe, on avait un suspense, mais surtout dans, je pense, dans Synthèse, on avait aussi toujours le suspense de se demander, est-ce qu'on va trouver le coupable? Même chose pour ça, le suspense, c'est est-ce qu'on va réussir à parler à un client? Tout le long, c'est qui est le client?
Ouais.
C'est vraiment intéressant. Et dans les démarches, écoute, on se rend au centre jeunesse, on parle à des gens qui ont déjà été dans le milieu du proxénétisme, dont ce gars-là, on écoute.
Moi, je m'en fous d'elle, là. Moi, je veux juste abuser d'elle, là. Les gars, quand tu tournes ton dos, ils disent « c'est une salope, c'est une pute, c'est elle vient de fourrer que ces quatre gars, même, pour me donner tout cet argent-là, et c'est elle se respecte pas, cette femme-là. » Mais tu t'en fous, parce que c'est pas ton corps qui subit tout ça. C'est ton portefeuille qui lui subit l'argent, c'est tout. Elle a oublié c'est quoi la valeur d'une femme. So, toi, tu prends avantage de ça.
C'est incroyable.
Quel
hein?
clip.
C'est incroyable. Donc, un ancien proxénète qui se ramasse en centre jeunesse, je crois, et qui fait une entrevue pour autre chose, mais qui accepte que la bande sonore soit utilisée pour le balado et qui se trouve en situation, disons, de dissonance cognitive parce que comme... T'écoutes, comme on a entendu, le gars, clairement, il avait des intentions criminelles là, d'exploiter les filles. Et puis, il a arrêté d'être dans la business quand il a lui-même eu un enfant. Donc, il se dit, OK...
Il a compris à ce moment-là.
Je voudrais jamais qu'on fasse ça à ma fille. Pourquoi je le fais à la fille des autres, genre? Donc là, il a parlé, mais...
Je comprends pas comment tu peux réaliser à ce moment-là que tu fais des... comme Oui, je comprends, là, t'as une fille, fait que tu veux pas que ça arrive à ta fille, mais... My God, faut que tu réalises avant, là.
Il y a plusieurs dans le balado ex-criminels qui ont baigné dans le milieu criminel ou qui ont fait des actions criminelles et qui se confient comme ça, soit par remords ou pour se dire, OK, il faudrait que ça arrête, là, cette industrie-là. On apprend des statistiques absolument troublantes, là. Ils vont dans un centre jeunesse où ils disaient, ouais, ben il y a 10 ans, 20 ans, il y avait une fille, disons, ou deux dans le centre jeunesse qui avait traîné dans la prostitution. Aujourd'hui, là, c'est 30 filles et plus et comme presque tout le monde est dans ce milieu-là. Ils ont dit, d'une classe de secondaire là, à Montréal, ben tout le monde connaît quelqu'un à l'école pour rentrer dans la prostitution. Mettons que tu veux. Là, ils ont dit que c'est rendu glamour un peu, si on veut.
Puis pourquoi cette hausse-là? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il explique?
L'attrait de l'argent, je te dirais, il explique un peu les mécanismes derrière le proxénétisme, c'est-à-dire souvent c'est leur chum ou ils sont en amour avec la fille. T'sais, ce proxénète-là qu'on a entendu, ben c'est ça, là, il séduit les filles en donnant beaucoup de cadeaux puis ils finissent par les exploiter pour les vendre à des clients. On apprend là-dedans, écoute, je te dis, j'ai fini la série en m'en venant ici dans l'auto en plus, je suis encore troublé par les
témoignages.
Certains témoignages que là-dedans, on apprend par exemple qu'une fille rapporte jusqu'à 2 000 $ par jour à un proxénète. Donc, elle peut passer 15-20 clients. T'sais. Puis, on parle de prostitution juvénile ici. Donc, moins de 18 ans. Il y a un policier, c'était très intéressant, il disait, tu sais, les clients, parce que évidemment chaque question est axée sur le client, je te rappelle, la quête de Catherine Proulx, qui est de trouver qui est le client finalement, tu sais, oui. qui paye pour ça. Puis le policier, il dit, ben, tu sais, l'âge de consentement sexuel au Canada, c'est 16 ans, donc il y a des clients qui se mettent dans la tête que c'est correct 16 ans, mais... Non, parce que la prostitution traite de personnes mineures. Là, c'est des accusations très sérieuses. Là. C'est un crime, concrètement. Donc, voilà. Trafic, j'ai trouvé ça très bon. Je le recommande, même si c'est très choquant. On plonge dans cet univers-là et c'est un peu à la méthode de la bombe ou Théo Youssef, c'est-à-dire elle parle à sa productrice toujours, elle confie toujours ses angoisses. On voit très bien sa démarche, on voit aussi ses questionnements. Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va pas là? Est-ce qu'on met une fausse annonce sur Internet pour essayer de trouver, parler à des clients puis essayer de savoir qui sont-ils? Donc on est dans cette démarche-là vraiment d'enquête.
Est-ce qu'on en apprend plus? Sur ce milieu-là?
C'est une critique que j'ai reçue. J'ai entendu des gens qui m'ont dit « Ouais, je suis pas impressionné par ce qu'on apprend. » Mais...
Est-ce que c'est le but? Oui.
Je pense que c'est le but. Pense que c'est le but. Puis c'est vrai que peut-être on est un peu impressionnable là-dedans. Mais tu sais, quand on y repense, OK, tout existe, incluant ce qui est vraiment trash. Tu sais, dans la vie, est-ce que je suis surpris que ça existe? Bon, pas tant. Mais de les entendre le dire, des fois, oui, ça tresse. Comme, je vais te mettre tout de suite, là, cette ancienne prostituée, ancienne travailleuse mineure du sexe, là, je sais même pas si on doit appeler ça de même, parce qu'elle carrément était victime de traite de personnes, qui a fait une entrevue de 3 heures avec la réalisatrice, mais dont le témoignage n'a pas pu être utilisé pour la bande, donc ils ont employé une actrice qui est une autre adolescente, ça donne ça.
C'est sûr que eux dans leur tête, c'est comme « Ah, elle a aimé ça, là, c'était le fun, là, c'était cool, c'est sûr qu'elle a aimé ça, ben oui, c'est sûr. » C'est jamais le fun, là. C'est dégueu, là. Puis t'essayes de te fermer les yeux le plus souvent, puis de boucher ton nez, puis de pas sentir les odeurs, puis tout. Comme t'essaies juste de le faire le plus vite possible, puis c'est tout, là. T'sais, quand le client rentre, c'est action, puis quand le client sort, c'est coupé.
Ouais, ça, c'est l'actrice là-dedans, je l'ai trouvée... Très crédible. On s'était parlé un peu de nos réticences par rapport à la bombe, l'acteur. On dirait que des fois, on voyait le texte un peu derrière ça. Je sais pas où ils ont déniché cette adolescente-là qui refait la voix, mais franchement, c'est très, très fidèle, premièrement. Et puis, c'est un cas là où... ce qui est dit peut pas laisser indifférent. Là, elle raconte, elle parle du client parce qu'on arrive toujours au client. C'est qui ces hommes-là qui achètent les services sexuels d'une mineure? Puis, on est un peu... il faut pas écouter ça quand on est triste ou pas en forme, là, parce que franchement, c'est pas up la vie comme sujet. Et puis, on arrive quasiment à la fin de l'épisode en se disant « OK, là, le monde va vraiment tout croche, là, parce que il y en a des besoins pour ça, puis il y en a des clients pour ça. »
Hey, j'ai le goût de l'écouter. Je me sens mal parce que c'est un sujet tellement difficile, mais tu m'as carrément donné le goût de l'écouter. C'est sûr, je l'écoute tout. Ouais, c'est quelque chose de complètement surréaliste dans ma tête que des gens puissent profiter de ces filles-là sans remords, pour l'argent ou pour le plaisir. Je comprends rien.
Et puis, je trouve que on peut conclure là-dessus, mais vraiment, le médium du podcast est idéal pour faire ça. Ouais. C'est un peu le même principe que la bombe. Il a fallu qu'il y ait un documentaire lié à ça. Donc, j'aurais aimé ça, savoir ce que la réalisatrice en pense. Mathieu Pellman nous a dit, ouais, nous, on voulait vraiment faire un podcast. Et Télé-Québec nous a dit, ben, pour l'argent, il faut qu'il y ait le volet documentaire vraiment classique, là, vidéo. Pour ce cas-ci, on est tellement immergé. Le son permet vraiment d'être avec là, le fameux ex-proxénète, là, clairement, ils n'ont pas mis une caméra d'en face pour avoir ce témoignage-là. Non. Même chose pour cette jeune fille-là. Mm. Même chose pour bien des intervenants du centre jeunesse. Moi, franchement, je trouve que c'est un peu... ce qui se fait le mieux ou ce qui se... Ça illustre clairement où on peut aller en balado d'enquête. Donc, à ce niveau-là, si on a peut-être quelque chose à retirer de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'il peut se faire un peu des deux. Soit du pire, soit des enquêtes qui sont carrément botchées par des abatteurs, soit du meilleur, c'est-à-dire on approfondit un sujet et on a accès à des lieux qui ne seraient pas possibles autrement. François, ça passe donc bien vite, un épisode du petit guide du podcast.
On essaie-tu de finir sur une note positive?
J'allais justement te lancer sur cette musique-là. On s'était demandé, c'est-tu le bon thème musical
pour le petit guide du podcast?
C'est toi d'ailleurs, hein? Félicitations.
Ben merci, mais on ne sait pas encore si ça va changer. Moi, j'ai envie d'essayer d'autres choses. On se tient au courant, mais ça se peut que ça change.
Hey, j'ai envie de faire un remerciement. Merci à notre graphiste Nick Paquette qui nous a fait le petit dessin du petit guide du podcast. J'ai oublié de le remercier depuis cet épisode. Je suis comme... je me sens cheap.
Tu devrais, Boris.
Vous écoutez donc nos balados
Up and Vanish
et Trafic qui sont disponibles sur toutes les apps comme d'habitude.
Salut, Boris.
Bye.